Henri Roorda dit Balthazar, apprendre ou à laisser, le programme de lecture du professeur d'optimisme, 1919. Partie 4. Les nombres. Éléonore veut nous prouver la noblesse de ses sentiments et la finesse de sa nature poétique en affichant beaucoup de dédain pour tout ce qui peut se traduire par des chiffres. Elle est manifestement fière de n'avoir jamais rien compris à l'arithmétique. Éléonore a tort. D'abord, il ne faut jamais dire avec satisfaction « je n'y comprends rien », car le premier imbécile venu pourrait en dire autant. Et puis, pour les poétesses agitées, comme pour les prosaïques négociants, les nombres ont une importance fondamentale. Écoutez, Éléonore. Votre élégance serait de qualité moins fine et vous auriez moins d'assurance dans le caquetage si le revenu de votre mari s'exprimait par un nombre ayant un zéro de moins. Et ce soir, pourquoi êtes-vous mécontente de votre souper? C'est qu'il y avait trop de sel dans la soupe et trop d'eau dans le café. Votre cuisinière est encore une de ces malheureuses qui ignorent que le qualitatif dépend essentiellement du quantitatif. Quand on les méprise, les nombres se vengent. D'ailleurs, vous étiez déjà fatiguée et maussade en rentrant. Votre mari vous avait fait parcourir un trop grand nombre de kilomètres à pied. Ne lui en voulez pas, il vous aide à maigrir. Or, vous seriez heureuse de voir diminuer le nombre des kilogrammes que la balance accuse quand on vous pèse. Ce nombre n'a pourtant rien d'excessif. Tel que vous êtes, chère madame, on vous trouve gracieuse. Mais vous le seriez certainement moins si le nombre qu'on obtient en divisant la longueur de votre dos par celle de vos jambes était trois fois plus grand. On dit aussi que vos dents sont très jolies. Pour qu'on le dise longtemps, faites en sorte que leur nombre ne diminue pas trop vite. Tous ceux qui vous jugent n'ont malheureusement pas la même bienveillance. On a regretté que, dans votre dernier poème sur l'humanité, le nombre des vers soit beaucoup trop grand et le nombre des idées beaucoup trop petit. Croyez-moi, Éléonore, tous les nombres ne sont pas dénués d'intérêt. Quand votre petite Henriette aura la fièvre, vous regarderez avec angoisse ou avec espoir le nombre indiqué par le thermomètre. La réputation d'une personne dépend de la fréquence des fautes qu'elle commet, c'est-à-dire d'un nombre. Et tel écrivain de ma connaissance aurait plus de talent si les adjectifs qu'il met dans ses phrases étaient beaucoup moins nombreux. Les distances plus ou moins grandes des nombres qui séparaient autrefois les peuples ont joué en histoire un rôle considérable. Car, n'est-ce pas, pour pouvoir se battre ou s'associer, il faut d'abord avoir l'occasion de se rencontrer. Un parlement termine la discussion d'un projet de loi. Le nombre des députés qui voteront oui est-il supérieur ou inférieur au nombre de ceux qui voteront non? C'est une question qui passionne le pays. Après cette longue guerre, le nombre des jeunes hommes à marier sera sensiblement inférieur dans certains pays au nombre de celles qui les attendent. Et cette inégalité aura, çà et là, des effets fâcheux sur la moralité publique. Que ceux qui ne soupçonnent pas l'importance des nombres étudient la statistique, le commerce, l'agriculture, la physique, l'astronomie. Et ils verront. Pour que des êtres organisés comme nous le sommes puissent vivre, il faut que certains nombres dans l'univers ne soient ni trop grands ni trop petits. Mais je ne veux pas augmenter le nombre de mes arguments, car on me reprocherait ma lourde insistance. Et si le nombre de mes lecteurs diminuait, cela me ferait du chagrin. Encore les nombres. Vous êtes restée ébahie, chère Éléonore, par tout ce que je vous ai dit dimanche sur l'importance des nombres. Je veux profiter de cet ébahissement muet pour compléter mon discours, car je tiens à ce que vous vous fassiez désormais une idée un peu plus claire de votre dépendance. Comme tout le monde, vous parlez souvent de la guerre, et vous répétez que les alliés qui défendent une cause juste finiront sûrement par avoir la victoire. Je le crois comme vous. Mais tout en étant très sûr que la justice est avec eux, les alliés prennent quelques précautions. Ils savent fort bien que certaines inégalités numériques seraient pour eux décisives. La portée d'un canon est un nombre de kilomètres, son calibre est un nombre de millimètres. Dans une bataille, ces nombres ont une grande importance. Et la vitesse d'une armée en marche s'exprime parfois par un nombre plus important que tous les autres. On sera le vainqueur si l'on arrive avant l'ennemi sur cette crête de montagne qui domine la seule route praticable. Si une fée malfaisante et toute puissante décuplait tout à coup le nombre des soldats et le nombre des canons dont l'Allemagne dispose, toute l'histoire du monde serait changée. Et pourtant, Candide et Éléonore, cette répugnante fée n'aurait pas modifié les qualités des belligérants. Et puisque nous parlons de la guerre, vous vous plaindriez moins du pain que votre boulanger vous envoie si le nombre des wagons de blé qui entrent en Suisse dans le courant d'un mois était beaucoup plus grand. L'autre jour, avec un gros panier au bras, je suis allée sur la place du marché, où quelques paysans avaient apporté des sacs pleins de pommes de terre. Tout le monde en voulait. Quelle cohue! Pourquoi suis-je rentré mécontent? Parce que le nombre des minutes durant lesquelles j'avais attendu était très grand, et que le nombre de mes pommes de terre était très petit, s'il est permis d'appeler encore ça un nombre. Les prix fixés par les marchands sont des nombres, et ces nombres-là assombrissent chaque jour nos pensées, car ce sont eux qui nous empêchent d'acheter toutes les bonnes choses que nous désirons. Mais permettez que je regarde ma montre. Bon, j'ai manqué mon train. C'est le nombre des minutes indiqué par la grande aiguille qui me la prend. Je puis donc continuer. Mais si je m'occupe avec plaisir, chère Éléonore, de votre éducation intellectuelle, c'est que dans votre délicieux salon, la température ne s'exprime pas par un nombre trop grand. Comment avez-vous pu méconnaître l'importance des nombres? Avez-vous donc oublié le vieux monsieur très riche que l'on voulait vous faire épouser? Vous ne l'aviez pas encore vu, mais quand on vous a dit que le nombre de ses années était 75, cela vous a suffi. Car un nombre glorieux ne l'est pas au même degré dans toutes les circonstances. Vous-même, l'autre jour, en compagnie de quelques jeunes filles, vous n'avez pas dit votre âge avec exactitude. Et pourquoi avez-vous mal aux pieds? Parce que vous vous obstinez à chausser le 37, alors que le 39 vous irait comme un gant. Vous avez remarqué que le mari de votre amie Jeanne a un galon de moins que le vôtre sur sa casquette d'officier. Et secrètement, cela vous a fait plaisir. Quant à votre vieille amie qui est en Écosse, vous commencez à douter de sa fidélité, pour cette simple raison que le nombre de ses lettres diminue beaucoup. Encore quelques mots et j'aurai fini. Hier, votre petite Henriette est rentrée en pleurant. Elle avait 20 fautes dans sa dictée. Il y a des nombres que le pédagogue juge avec sévérité. Vous savez être sévère aussi, mais c'est dans d'autres cas. Vous reprochez au baron Salvador le trop grand nombre de bagues qui garnissent ses doigts courts, et à la brave mère Gigogne les 23 enfants qu'elle a faits. Ce manque de mesure vous choque. Et pourtant, l'avenir appartient aux races pullulantes. Les harengs le savent bien, et les Allemands aussi. Ce matin, J'ai grondé mon valet de chambre en constatant que le nombre des pantoufles posées sous mon lit était impair. Vous-même, Éléonore, que diriez-vous si votre marchand vous faisait essayer un gant où le nombre de doigts serait pair? Et croyez-vous que si le nombre des boutons de culotte qu'il trouve dans le tronc des pauvres augmentait rapidement d'année en année, monsieur le pasteur n'en tirerait aucune conclusion? J'aurais voulu parler encore à Éléonore des ordonnances des pharmaciens, de la musique, du mouvement de la terre, mais je vois que mon long discours l'a endormie. Je vais profiter de son sommeil pour vous confier un secret. Sans qu'elle s'en doute, la malheureuse est la seconde femme d'un bigame. Et prochainement, son mari va être puni par les justes lois pour n'avoir pas accordé assez d'importance à la petite différence qu'il y a entre le nombre 1 et le nombre 2. En pyjama. Les humbles diraient en chemise de nuit. Les dirigeants disent en pyjama. Le soir, lorsque je suis en pyjama, je ne changerai pas ma place contre celle du monsieur qui vient de s'habiller pour aller dîner en ville. Je puis faire les mouvements les plus brusques sans m'exposer à entendre craquer mon costume. Et d'ailleurs, ce craquement ne suffirait pas pour assombrir mon humeur. Ma tête, que ne menace plus la dureté du faux col, a retrouvé toute sa mobilité. Et en me laissant choir avec abandon dans mon fauteuil profond, je ne me demande pas si je vais froisser l'étoffe souple dont je suis vêtue. Mon corps est redevenu libre, et mon esprit ne se sent pas moins libre que mon corps. Ma pensée, elle aussi, s'est mise en pyjama. Des moralistes sévères seraient même par moments tentés de lui dire, comme dans le vaudeville célèbre, « Ne te promène donc pas toute nue ». Mais cette sévérité est stupide. En ôtant le masque qu'elle porte presque constamment sur la scène de la comédie humaine, ma pensée obéit au besoin de redevenir sincère. Le Dantec dit quelque part que l'hypocrisie est la première des vertus sociales. Mais cette formule pourrait choquer les personnes respectueuses qui ont toujours des opinions comme il faut et dont la sincérité ne provoque jamais le scandale. Je me contenterai donc de dire que notre sociabilité nous pousse souvent à partager pour quelques minutes les idées et les sentiments de ceux avec qui nous causons. Une heure plus tard, avec d'autres interlocuteurs, nous aurons, par politesse, des paroles légèrement différentes. Et puis, avec les uns comme avec les autres, nous devons avoir l'air de nous intéresser à l'événement du jour. Nous ne pouvons pas parler au premier venu de la chose qui nous préoccupe sans cesse. Quand je suis en pyjama, je ne me crois plus obligée de porter des jugements sur un Trotsky, sur un Lénine, sur un Caillaux et sur d'autres gaillards qui me sont totalement inconnus. Quand je suis seule, je n'essaie pas de me faire croire à moi-même que je suis un homme très bien renseigné. Je sais bien que ce n'est pas vrai. Oui, j'aime, quand toutes les besognes de la journée sont terminées, cette heure mélancolique et douce, où je n'ai plus besoin d'avoir une attitude et où je reprends conscience de ma fragilité. Je songe alors, avec un peu de honte, au toupet avec lequel j'ai énoncé des propositions invraisemblablement idiotes. Hier encore, au café, avec trois vieux messieurs aussi affirmatifs que moi, j'ai dit ce que les alliés ont à faire s'ils veulent être réellement victorieux. Et nous montrions tous les quatre une superbe intransigeance. Crétin ! Ah, ce n'est pas sans résultat qu'on oblige les écoliers, pendant des années, à parler de choses dont ils se font une idée très vague. Mais maintenant, seul dans ma chambre, je n'ai plus besoin d'épater les autres. Je sais bien qu'il n'y a dans mon pyjama qu'un ignorant tout nu. J'ai perdu cette valeur fictive que de bons badauds m'attribuent, parce que je suis avocat, député et désigné par mon parti pour remplacer chose au Conseil d'État. Je ne sens pas en moi cette richesse véritable qui ferait mon orgueil, la force. Mon habituelle assurance n'est qu'une cuirasse. Voici que je m'attendris bêtement et que je retrouve mon cœur d'enfant, le cœur sans tache que ma mère m'avait donné. Quelque chose, heureusement, me rassure et me fait sourire. Je songe à mes millions de semblables qui tous essaient de faire croire à l'importance du rôle qu'ils jouent dans le monde et qui, chaque soir, comme je le fais, peuvent contempler leur pauvre moi, si vulnérable. Et à la pensée de notre commune fragilité, j'ai pour eux une vague sympathie. Mais voilà, éprouvent-ils tous, par moments, le besoin d'ôter leur masque? Ou bien existe-t-il, quelque part, un sinistre imbécile qui a fait broder sur son pyjama une couronne impériale et qui, pas une minute, ne cesse de prendre au sérieux le grand personnage qu'il est? Hélas, il existe sûrement le malheureux qui aurait honte de la pauvreté de son âme s'il se dépouillait du beau vêtement moral que lui a remis autrefois l'éducateur officiel. Je connais Marcel. Quand il va se coucher, il ne dépose pas sur le seuil de sa chambre ses titres, ses opinions d'homme bien pensant et son abnégation patriotique. Et il ignorera toujours la joie qu'il y a à naître par moment qu'un individu possédant des mains, des yeux et une pensée qui lutte pour être libre. Un geste héréditaire. Je ne voudrais pas me vanter, mais l'occasion m'oblige à le dire. Je suis de ceux qui posent des problèmes à l'humanité pensante et qui ainsi font quelque chose pour l'avancement des sciences. Ces problèmes, je ne les résous pas, car ce serait fatigant. Et d'ailleurs, pour les besognes qui n'exigent que de la persévérance, il y a, dans les grands laboratoires de l'État, les esclaves du travail. Je n'essaierai donc pas de répondre à la question que je vais vous poser, à vous, chers lecteurs du sexe masculin. Pourquoi chacun de vous, lorsqu'il rencontre sur son chemin, dans un endroit désert, un vieux gibus abandonné, un panier rond ou bien quelques boîtes métalliques défoncées, éprouve-t-il le besoin irrésistible d'envoyer son pied dans cet objet inoffensif? Je n'affirme rien à la légère. Depuis 25 ans, je fais à ce sujet des observations méthodiques. Je me suis trouvé 133 fois dans la campagne, en plein jour, ou bien dans une rue de Lausanne au milieu de la nuit, avec un compagnon qui, joyeusement et énergiquement, a lancé son pied dans la chose insolite gisant sur le sol. Vive la France ! Montaigne a dit : si haut que son trône soit placé, un roi n'est jamais assis que sur son derrière. La Fontaine a dit : notre ennemi, c'est notre maître. Et je pourrais faire bien d'autres citations qui montreraient ce qu'il y a de sainement irrespectueux et de fraternel dans l'esprit des grands écrivains français. Le français est un homme pour qui les autres hommes existent. Cette définition lumineuse fait comprendre comment les natures les plus fines et les plus aristocratiques peuvent être égalitaires. Et il faut avoir une âme bien grossière pour ne pas saisir le sens que la France de 1789 a donné aux trois mots dont elle a fait sa devise. On a dit qu'il y a deux Frances. Il y en a peut-être même davantage. Mais moi, je n'en veux connaître qu'une. Celle qui, depuis des siècles, enseigne aux hommes à penser librement. Cette France-là a des formules qui restent vraies bien au-delà de ses frontières. On ne fait qu'appliquer ces principes en disant « Aujourd'hui, Une patrie pour laquelle les autres patries n'existent pas n'est qu'une association de malfaiteurs. Et en lui disant, se trompe-t-on beaucoup? C'est un Français qui m'a appris, quand j'avais 20 ans, à respecter l'individu. Et il m'a fait croire alors en la possibilité de la justice sociale. Sa conception de la liberté et de la fraternité, où je voyais quelque chose de normal, d'universel, de spécifiquement humain, n'était peut-être après tout qu'une conception française. Mais l'expérience prouve que les manières de sentir et de penser qui caractérisent d'abord les êtres de sa race sont susceptibles de se généraliser. Que de fois des rayons bienfaisants émanant de Paris ont fait éclore à l'autre bout du monde une âme nouvelle dans le cœur d'un étranger. Et l'on n'essaie pas de se défendre contre cette hégémonie spirituelle, car la France est une éducatrice qui sait instruire ses élèves sans les humilier. Les Français de 1789 ont formulé les droits de l'homme, et ils pouvaient effectivement parler au nom de l'humanité entière, car ils ne faisaient rien de plus que d'exprimer la sensibilité de tous les êtres de notre race, qui, sur la route des siècles, se sont suffisamment éloignés de la brutalité originelle. Je songe aux meilleurs d'entre eux, à ceux qui représentent leur patrie aux yeux du monde. Ceux-là ne croient plus aux histoires de croque-mitaine qu'on raconte au peuple très jeune pour les rendre obéissants. Et ils ont aussi dépassé cet âge sans pitié où l'on s'acharne sur un camarade trop faible. Ils ne connaissent plus la peur, et cela n'offre aucun inconvénient puisqu'ils ne sont plus méchants. En s'affranchissant de ce respect, qui n'est qu'un moyen de domination pour les habiles, les Français ne se sont pas affaiblis. Devant les formidables canons du Prussien, ils sont restés unis et forts. Qui sait ? Il y a une forme de la générosité qu'on ne trouve que sous certains climats bénis. Des personnes qui ont toujours pensé bien sagement ont reproché aux Français leur scepticisme. Il est vrai qu'Ernest Renan a osé dire à des jeunes gens « Faites une place au sourire et à cette hypothèse où ce monde ne serait pas quelque chose de bien sérieux. » Eh bien, il avait raison. Ceux qui prennent trop au sérieux la vérité qu'ils croient posséder et dont ils veulent à tout prix assurer la victoire deviennent des assassins. Le scepticisme est le bon remède contre le fanatisme. Les cerveaux humains sont encore plus précieux que les formules qu'ils élaborent. Le Français, tel que je le vois, est le bipède humain complètement redressé. Il ne reste pas courbé devant un maître, et il ne veut pas ressembler au rapace penché sur le vaincu qui a encore de l'or dans ses poches. Il sait être fort sans affaiblir les autres. Il a trouvé des paroles éloquentes pour nous aider à lutter contre la bête, pour nous faire aimer la tolérance et la justice. Et le mot « progrès » n'a aucune signification si la sociabilité française n'annonce pas l'instinct nouveau qui doit se développer chez tous les êtres et si nous n'allons pas vers des temps où l'homme n'aura plus peur de l'homme. La rue moralisatrice. Plus d'une fois, durant ces dernières années, je me suis arrêtée avec stupeur devant de belles dames en corset, assises devant la devanture de l'un de nos magasins les plus élégants. Je ne comprenais pas pourquoi des représentantes de ce sexe inimitable, auquel je dois ma sœur et ma concierge, venaient se présenter aux flâneurs avant d'avoir achevé leur toilette. On m'a expliqué qu'elles ne sont pas venues se mettre là de leur plein gré. Ces femmes, paraît-il, sont en cire, et le marchand qui les exhibe a pour le faire des raisons faciles à comprendre. On ne s'en est pas tenu là. Certains négociants ont fini par mettre en montre des femmes vivantes, dont la tenue, je me hâte de le dire, était irréprochable. Quand je vais à ma fenêtre, j'en vois une qui, derrière la grande vitre d'une boutique, sous l'œil des passants, répare du matin au soir un pantalon récalcitrant. Un vieux prince valaque, qui ne connaît évidemment pas toutes les finesses de la langue française, se croit obligé de stopper chaque fois qu'il passe devant ce stoppeur. Et je plains cette vaillante Pénélope, qui n'est protégée que par une mince lame de verre contre la goguenardise et l'insistance de ce malotru. Mais ma pitié est peut-être sans objet, car la noble femme, avec le plus parfait naturel, accomplit sa besogne, sans voir et sans entendre les innombrables imbéciles qui passent devant elle. Cette travailleuse infatigable a quelque chose d'exemplaire. Elle a sûrement fait honte à bien des macaques qui promènent leur oisiveté dans les rues. Et je me demande si l'on ne pourrait pas généraliser ce moyen d'éducation. Ah, quel ne serait pas le progrès réalisé si la rue devenait moralisatrice? L'éducation par l'image, l'éducation par l'exemple, l'éducation automatique, l'éducation sans phrase. Voilà l'idée à exploiter. Que l'on me comprenne bien. D'un bout à l'autre de la rue, dans toutes les devantures, le promeneur désœuvré ne verra à sa gauche et à sa droite que des travailleurs ailés, courbés sur leur besogne quotidienne. Il lui semblera alors qu'un murmure de désapprobation s'élève sur ses pas, et du fond de sa conscience montera une voix qui lui dira « Va faire ton ouvrage, paresseux !» Mais surtout, quel spectacle pour les jeunes! Quelle excellente leçon de choses! Quelle bonne leçon de morale! Cela vaudra bien le cinéma! Ici, l'enfant contemplera le pédicure dans l'exercice de ses fonctions. Là, il s'arrêtera devant le cordonnier frappeur, muet, concentré et menaçant. Puis ce sera la jeune mère allaitant son enfant, ou bien le penseur, cherchant douloureusement dans sa tête vide une idée à délayer pour l'article que le journal attend, ou bien le maître d'école faisant réciter en chœur à 30 élèves attentifs, parallèles et interchangeables, la règle concernant le pluriel de poux, genoux, hibou, joujou et nounou. Tout le long de la rue, derrière les vitrines transparentes, on verra ceux qui liment, ceux qui rabotent, ceux qui frottent, ceux qui épluchent, ceux qui grattent, ceux qui triturent, ceux qui pétrissent, ceux qui fignolent. En un mot, tous ceux qui souquent. Et l'on verra aussi, scène plus édifiante encore que les autres, la famille modèle, en train de prendre son repas sans piment. Monsieur énonce des vérités premières. Son épouse l'écoute respectueusement, et par moments, elle l'interrompt pour enseigner avec douceur les bonnes manières au petit Jules, lequel fourre son doigt dans la sauce, puis dans son nez. Quand mon idée sera réalisée, notre cité ressemblera beaucoup à une maison de verre. La vaisselle sera mieux lavée quand elle sera lavée sous l'œil de la société. Le cuisinier, exposé à tous les regards, n'osera plus, pour composer son jus de viande, recourir à des procédés beaux mais extravagants, qui font la gloire des chimistes. Et le boulanger sera bien obligé de faire son pain avec de la farine. Les intimités seront réduites au strict indispensable. Les joies intimes sont des joies égoïstes et donc inutiles au point de vue social. La responsabilité de celui qui vit au milieu de ses semblables est grande. À chaque instant, il s'expose à donner un mauvais exemple. Dans ma cité future, le citoyen, en travaillant, en se promenant, en éternuant, pensera aux autres. Un pour tous, tous pour un. Étant constamment vu, l'individu aura l'attitude qu'il doit avoir et, tout naturellement, il pratiquera la vertu. Il y aura d'ailleurs, pour la lui rappeler, les 6 000 inspecteurs de l'État qui, avec une curiosité non feinte, observeront les allants, les assis et les venants. Fidélité. Il y a quelques semaines, en me promenant, j'ai rencontré un couple heureux. C'était, je crois, des gens de la campagne. La femme avait cette laideur irrémédiable, victorieuse, qu'aucun artifice ne peut atténuer, et qui, dans la lumière du jour, éclate comme un scandale. Mais je fus moins vivement frappée par son physique désespérant que par la confiance tranquille avec laquelle elle s'appuyait au bras de son mari. Chose difficile à croire, elle pouvait compter absolument sur lui. C'était un gaillard solide et content, qui promenait courageusement dans la foule la plus laide de toutes les femmes. C'était touchant, c'était admirable. Hélas, il n'y a pas d'homme complet. Le tout est plus grand que les parties, et il n'existe pas d'individu possédant toutes les vertus de l'humanité. Ce mari, exemplairement fidèle, était-il très intelligent? Avait-il assez d'imagination pour deviner la pensée des passants? Possédait-il la notion du beau et du laid? Était-il moralement supérieur à tous les êtres sensibles pour qui c'eût été une torture de se solidariser autrement que par la pitié avec cette guenon? Il y a des fidélités qui s'excluent. Musset nous parle dans Namouna d'un donjon inquiet qui sera fidèle jusqu'à la mort à l'insaisissable éternel féminin. Mais entre cette fidélité abstraite, condamnable du point de vue social, et celle du paysan inconscient dont j'ai parlé, il y a bien des degrés possibles. J'imagine que M. Pierre Loti de l'Académie française, qui, revenu d'Afrique, du Japon, de Tahiti et d'autre part, nous a raconté ses amours multicolores, a dû continuer dans les salons de l'Occident à comparer des nuances après avoir comparé des couleurs sous le ciel oriental. D'ailleurs, sans être un pêcheur d'Islande ou d'ici, on sait bien qu'il existe plus d'une jolie femme. Et quand on est marié, c'est déjà commettre, en pensée, une infidélité d'une minute que de reconnaître la grâce incontestable de l'inconnu qui passe. On peut être aussi, plus ou moins, fidèle à sa patrie. La guerre nous oblige à prendre parti. Mais en temps de paix, beaucoup d'hommes s'éloignent sans douleur du lieu où ils sont nés. Et ils n'éprouvent pas toujours le besoin d'y revenir. Ils trouvent dans des pays nouveaux des êtres sociables, des arbres magnifiques et des fruits rafraîchissants. Partout, ils ont l'occasion d'exercer leur force. Et ils savent bientôt que toutes les aurores sont belles, que tous les couchers de soleil sont beaux. Il est des voyageurs qui, revenus dans leur ville natale, ne veulent plus affirmer que leur patrie est la plus belle de toutes. Et j'ai un vieil ami qui ne pourra plus jamais être l'homme d'une église ou l'homme d'un parti, parce qu'il s'est trop longtemps appliqué à comprendre les croyances des autres. Par amour de la justice et de la vérité, il est devenu un infidèle. Dans les luttes où il se laisse parfois entraîner, nul ne peut compter sur ce partisan compréhensif et conciliateur. Mais son accueil sans défiance enchante l'étranger. Il est déjà le représentant de cette époque lointaine et problématique où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Il y a de la force chez ceux qui sont, volontairement, jusqu'au bout, les champions d'une cause perdue. Parfois difficile à comprendre, l'exemple qu'il nous donne est précieux, car la vie n'est pas devenue assez facile pour que l'opiniâtreté ait cessé d'être une vertu. Mais il est bon aussi qu'il existe des êtres inconstants, toujours prêts à sentir la beauté des choses nouvelles. Nous n'arriverons sans doute pas de sitôt au dernier acte de la comédie humaine. Or, seuls des hommes infidèles au passé saurons nous apprendre à aimer ce que nous n'avons pas encore vu. Notre volume. La vie sociale n'est possible qu'entre individus possédant les qualités qui distinguent l'homme de la brute. La loi et l'usage permettent à chacun d'être totalement dépourvu de générosité et de courage. En dépit de sa bêtise, Étienne a pu fonder une famille. Il gagne sa vie et il accomplit ponctuellement ses devoirs de citoyen. On peut d'ailleurs être bête sans qu'il y paraisse beaucoup. On peut l'être avec élégance. Avant la guerre, des psychologues notoires répétaient que la volonté des hommes avait attrapé de graves maladies, ce qui n'empêchait pas la vie de continuer. Bien des trafiquants savent par expérience qu'il n'est pas indispensable d'avoir plus d'honnêteté que n'en exige le code pénal. Enfin, pour parler de l'hypocrisie, il vaut certainement mieux ne pas trop ressembler à Alceste. Bref, les vertus de premier ordre sont des vertus de luxe. On peut fort bien s'en passer. Mais il y a des conditions nécessaires que tout individu doit remplir s'il veut jouir de la compagnie de ses semblables. D'abord, pour être reçu dans le monde, il faut avoir figure humaine. Un groin de cochon, balancé au bout d'un coup de cygne, est un attribut dont l'exhibition ne serait tolérée dans aucun salon. Il est condamné à être exploité par le directeur d'un cursaal ou par la propriétaire d'une baraque foraine. Si vous exhalez constamment une odeur fétide, vous serez tenu à distance comme un lépreux. Et l'on fera aussi des détours pour vous éviter si votre bouche ne laisse jamais échapper que des cris rauques et inarticulés. J'ajoute, pour ne pas être trop incomplet, qu'on ne voudra avoir aucun rapport avec le goujat qui se permettra sans cesse des manières indécentes, ni avec le violent dont la brutalité se traduira par de fréquents coups de pied envoyés dans les tibias fragiles de ses frères. Ce n'est pas tout. Soyez beau, aimable, spirituel et très bien élevé. Ayez une haute intelligence, une grande âme et du génie. Cela ne vous empêchera pas de souffrir toute votre vie de la pitié, des moqueries, de la malveillance ou de la lâcheté de vos contemporains si vous êtes beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit. Le volume d'un adulte ne doit pas trop différer du volume normal assigné au corps humain. Tout excès, dans un sens ou dans l'autre, aura, pour le particulier qui se le permettra, des conséquences beaucoup plus graves qu'un défaut d'intelligence, de beauté, de force physique ou de propreté morale. Mon confrère B, qui, dans l'espoir de faire un mariage avantageux, va dire partout qu'il n'apprécie chez la femme que les qualités du cœur et de l'esprit, ne voudrait pas épouser la créature exquise, tendre, pieuse, jolie, gracieuse, dévouée, laborieuse et intelligente, qui aurait un mètre de plus ou un mètre de moins, je dis un, que les femmes ordinaires. Vous me direz que cette femme minuscule ou géante n'existe pas, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas que j'ai raison. Je n'aurai sans doute jamais l'occasion de prouver ce que j'affirme. Et pourtant, vous avez trop de bonne foi pour me contredire. Si nous avions une sœur, haute de 2,50 m, nous trouverions toutes sortes de prétextes pour ne pas la promener sur la place Saint-François, le dimanche matin, à 11 h, quand les fidèles sortent de l'église, où ils viennent renouveler leur provision hebdomadaire de bienveillance. Et pourtant, quel serait le crime de cette malheureuse ? Nous sommes des mufles. Quant à la mignonne quadragénaire qui ne peserait que 4,2 kilos, ne serait-on pas tenté parfois de la soulever avec un peu trop de sans-gêne? Si vous voulez qu'on vous respecte, ayez du poids. Reconnaissons-le, nous n'aimons pas la fantaisie et nous ne tolérons pas chez les autres une trop grande originalité. Nous voulons que l'individu reste dans le rang. Si sa tête s'écarte trop, par en haut ou par en bas du niveau moyen, il verra toujours des sourires sur les visages et il entendra jusqu'à la fin des ricanements. Vicieux, gâteux ou eczémateux, il pourrait compter sur notre indulgence. Mais en ce qui concerne le volume, nous sommes intraitables. Nous exigeons de chaque individu qu'il soit à peu de choses près comme les autres. Il y a des choses avec lesquelles la société ne badine pas. L'éternel féminin. Une vieille demoiselle qui aime à disserter sur le bien et le mal m'a fait part dernièrement des réflexions que lui suggéraient ses jeunes contemporaines. « Oui, monsieur, m'a-t-elle dit, j'éprouve un peu de honte lorsque je me promène dans les rues. Les jeunes femmes d'aujourd'hui s'habillent d'une manière indécente. Lorsque, de loin, j'en vois venir une, il me semble qu'elle est en chemise. Sa robe est beaucoup trop courte. Ce n'est pas une sévérité injuste qui me fait parler ainsi. Il faut bien qu'il y ait dans la toilette de ces personnes quelque chose qui attire l'attention, puisque très souvent des messieurs s'arrêtent pour les regarder passer. Il y a quelques années, à l'époque de la jupe entravée, ces mêmes messieurs devenaient contemplatifs quand une dame montait dans un tram. Et que signifient ces hauts talons fragiles? Vraiment, les femmes sont en train de devenir folles. Elles veulent qu'on les regarde. Et pour réussir, tous les moyens leur paraissent bons. Je compare mélancoliquement l'époque actuelle au temps où l'on s'habillait avec goût, avec simplicité, avec décence. Toute l'éducation de la femme est à refaire. Mademoiselle, permettez-moi de ne pas être de votre avis. L'éducation de la femme est faite depuis longtemps. Le serpent s'en est chargé. De votre temps, à peu de choses près, tout se passait comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas la jupe entravée, mais vous avez porté une tournure. À quoi rimait-elle cette tournure? Autrefois, il y a eu la crinoline, laquelle permettait aux dames du meilleur monde de cacher aux yeux des douaniers respectueux d'invraisemblables quantités de dentelles, de sucre et de tabac. La crinoline, soit dit en passant, ne vaut certes pas les robes loyales de ces dernières semaines, qui permettent à une jolie femme de prouver sa valeur intrinsèque. À toutes les époques de l'histoire et de la préhistoire, la femme, par l'éclat ou l'étrangeté de sa toilette et par toutes sortes de manigances, s'est efforcée d'attirer l'attention du monsieur. Celles que vous condamnez ont raison. Il faut absolument qu'on les regarde. Sans s'en douter, au moment où elles vous paraissent déplorablement futiles, elles accomplissent une fonction sacrée. Le rôle de la femme est de rendre l'homme déraisonnable pour un certain temps. Ainsi, elle lui révèle une existence beaucoup plus riche que celle qu'il vivrait si tous ses actes étaient commandés par le mécanisme simple de sa logique. Avant d'être le défenseur de l'ordre social, de la famille et de la propriété, la femme provoque un désordre nécessaire dans l'âme masculine. Ces gracieuses passantes qui veulent qu'on voie leurs mollets sont les mannequins automobiles de la très ancienne maison Femina, fondée à l'origine des siècles par Dame Nature. Par tous les moyens, Dame Nature, qui a son idée, veut assurer la prospérité de son entreprise. Elle n'a pour le moment rien à craindre. Sans les demander, la maison Femina a obtenu de ses clients des milliers d'attestations, infiniment plus élogieuses, infiniment plus éloquentes que celles dont a pu s'enorgueillir le fabricant de l'excellent vin Mariani. Mais il faut absolument qu'elle renouvelle sans cesse ses affiches, ses prospectus et son choix d'échantillons. Le passant, ondoyant et divers, réclame du nouveau. À partir d'un certain âge, les mâles de notre race fatigués éprouvent quotidiennement le besoin d'aller faire un interminable chasse dans un café avec des copains. Eh bien, le jour où l'éternel féminin ne parviendra plus à attirer l'attention du passant et à le détourner de son chemin, Dame Nature pourra déposer son bilan. Car alors, ce ne sera pas à 50 ans, mais déjà à l'âge de 20 ans que les hommes s'adonneront au jeu de cartes et à la boisson. Vignier a prédit la chose. Les deux sexes mourront chacun de son côté. Et ce sera vraiment dommage. À table d'hôte, à Monsieur H.B., voyageur mécontent. Depuis que je suis le représentant de la société anonyme des autocuiseurs à eau froide, je voyage beaucoup. Et souvent, à midi, au lieu de m'asseoir au milieu de ceux qui m'aiment, devant la soupière de mes aïeux, je dois aller chercher dans quelque hôtel soigné de second ordre l'indispensable pitance. Je ne suis pas l'ennemi des hôteliers. Je trouve pour eux des excuses lorsqu'on me rappelle qu'ils font frire parfois nos pommes de terre dans de la vaseline, qu'ils nous servent sous le nom de veau du bœuf retombé en enfance, comme disait Taine, et qu'ils découpent toujours le poulet de manière que chaque morceau contienne sous un volume maximum la plus petite quantité possible de matière masticable. Pour eux comme pour nous, la vie est difficile. Et d'ailleurs, la somme des tricheries professionnelles est la même dans chaque métier. Il n'y a que les moyens employés qui diffèrent. Non, je ne reproche pas aux hôteliers d'avoir augmenté le nombre des toxines qui voyagent dans mon organisme. Si j'en veux à quelques-uns d'entre eux, c'est qu'ils manquent d'amabilité. Par définition, l'hôtelier doit être souriant, obséquieux, plein de prévenance. Il doit nous accueillir, qui que nous soyons, comme si nous étions de grands personnages. Il faut qu'il soit hospitalier avec cordialité. Ne nous attend-il pas toujours? Eh bien, l'autre jour, un hôtelier de Payerne m'a obligé à manger à table d'hôte. Étant très fatiguée, je n'ai pas voulu aller à la recherche d'un hôtel plus élégant, où l'on m'aurait, sans objection, installé à une petite table séparée. Je me suis donc laissée insérer entre un vieux monsieur gémissant et une énorme dame gélatineuse, en face d'un notaire qui avait un gros bouton jaune, presque mûr, au coin de la narine jaune. Au bout d'une demi-heure, le vieillard plaintif n'avait pas encore dit ce qu'il voulait. Je suis un homme très tolérant. Je n'empêche personne d'être gémissant ou gélatineux. Tous les goûts sont dans la nature. Je voudrais seulement que l'on ne me force pas à manger en compagnie de gens à qui je n'ai rien à dire. Paul Adam a jugé en termes sévères cette habitude que nous avons de nous réunir pour manger. Il trouvait ça presque malpropre. Celui qui mange n'accomplit-il pas une fonction purement physiologique ? Je ne suis pas de l'avis de Paul Adam, il exagère. En mangeant de bonnes choses et en buvant de bons vins, on peut prendre part à des conversations dont l'insipidité sans cela serait insupportable. Les repas pris en commun rendent l'homme sociable, mais il ne faut pas que la table d'hôte soit obligatoire. À table d'hôte, j'ai eu des voisins qui tenaient absolument à me faire part des pensées fortes que la guerre leur suggérait. Or, ces pensées, je les avais déjà trouvées dans les journaux. À table d'hôte, je me suis trouvée en face d'un homme héroïque qui s'enfonçait dans la bouche jusqu'à la garde, un couteau embardouflé de mayonnaise. Croyant d'abord à une tentative de suicide, je regardais ce malheureux avec pitié. Mais au second coup, ce spectacle me dégoûta. J'ai vu aussi un dîneur joyeux aspirer lentement un macaroni vertical qui n'en finissait pas. J'en ai vu d'autres dont la bouche laissait tomber de très haut des noyaux de cerise dans une assiette. Il y en a dont la déglutition est aussi bruyante que la mastication. Et il y en a encore qui sont inquiets parce que leur dentier va tomber. Enfin, bien des fois, au dessert, j'ai pu contempler l'homme au cure-dent, méthodique, méticuleux, fignoleur, infatigable. Plus modeste que Louis XIV, je dis « l'individu, c'est moi ». Au nom de l'individu, je demande la suppression de la table d'hôte obligatoire. La petite table isolée n'a pas seulement de l'agrément pour les délicats comme vous et moi. Elle permet aussi à celui qui mange salement de prendre une attitude pleine d'abandon et de produire sans choquer personne des bruits familiers. Mais malgré tout, la table d'hôte a du bon. On y rencontre parfois l'homme célèbre. Il dit avec autorité des choses quelconques. Il pense comme tout le monde. Et pour nous, les obscurs, c'est consolant. Vieillir. Si une fée miséricordieuse m'offrait le moyen de recommencer une existence nouvelle, j'accepterais avec empressement. Mais je lui demanderais une jeunesse très différente de celle que j'ai eue. Les êtres jeunes possèdent un trésor qui, le plus souvent, ne leur sert pas à grand-chose. Impatients et maladroits, ils gâtent les bonheurs fragiles qui passent à portée de leurs mains. Ou bien c'est la timidité qui les paralyse. Et puis, éduqués d'une manière stupide, ils se font décidément de la vie une idée trop absurde. C'est égal. Je voudrais bien avoir 25 ans de moins. Mais puisque les fées ne s'adressent jamais aux gens de mon âge, je dois me contenter des émotions et des plaisirs que connaissent ceux qui vieillissent. Dans la rue, je vois passer des jeunes gens animés, qui comptent visiblement sur des joies prochaines. Je sais bien au fond qu'ils ne seront pas entièrement déçus. Leur faculté de désirer et de croire n'est-elle pas enviable aussi? Je me rappelle alors, mélancoliquement, le mot de cette fillette de 6 ans, qui, émerveillée par les fruits nouveaux qu'elle venait de manger, demandait à son père « Quand je serai morte, est-ce qu'il y aura encore des cerises ?» Ah, ils sont exquis et bien réels, les fruits auxquels nous ne goûterons plus. Mais dans ces moments-là, je me dis, voyons, pas d'attendrissement. Ces regrets sont stériles. Jouez plutôt du spectacle de la vie. Être le spectateur de l'univers, cela ne vaut-il pas tous les autres bonheurs? Autrefois troublé et agité, je ne savais pas contempler le monde. Pour bien regarder les choses, il ne faut pas avoir le désir de les posséder, il faut avoir l'esprit libre. Aujourd'hui, même quand mon porte-monnaie est vide, je regarde avec plaisir les jolis objets qui sont derrière les vitrines des magasins. Et si des humbles viennent alors s'arrêter à côté de moi, je me représente si bien leurs pensées que je suis presque tentée de leur adresser la parole. Mais ce ne sont pas les magasins qui m'intéressent le plus. Je vois les passants. Et avec une joie légèrement amère, mais réconfortante, je me débarrasse peu à peu des niaiseries qu'on m'avait mises dans l'esprit en me parlant de l'humanité. Car il y a 2 humanités, celle qu'on nous présente dans les livres et celle qui circule dans les rues. En vieillissant, on devient capable de juger les hommes sans aveuglement, sans malveillance et sans envie. On connaît leur médiocrité. Mais on sait ce qui excuse leur faiblesse. Et l'on éprouve pour eux une vague pitié. Ah, comme c'est bon de n'avoir plus ce voile sur les yeux. Il y a 25 ans, les pantins du monde élégant avaient pour moi du prestige et ils m'intimidaient. Maintenant, je sais en quoi consiste l'existence brillante qu'ils mènent. Je sais à quoi se réduisent les jouissances de ceux qui ont peu d'intelligence et peu de sensibilité. Peu à peu, on s'affranchit. J'ai maintenant de la sérénité dans l'esprit. Mon fidèle feutre mou, légèrement crasseux, ne ressemble pas au chapeau qu'on portait cet hiver. Et j'ai quelques opinions stables qui ne sont pas celles de l'auteur à la mode. Quel peut bien être le dernier de ces messieurs? Qu'il est loin, le temps où, au moment d'entrer dans un restaurant ou dans un salon, je me demandais avec un peu de malaise si ma mise était irréprochable. J'ai, pour les êtres satisfaits dont le regard moqueur pourrait se poser sur moi, une indifférence salitaire. Ce sont des hommes, ce sont mes semblables, rien de plus. Et puis, avec l'âge, on devient tolérant, car on se rappelle ses propres fautes, et l'on essaie de ne pas être méchant. Je rencontre aussi, sur mon chemin, de loin en loin, des enfants dont la fraîcheur est encore intacte. J'imagine alors tout ce qui les menace, et je voudrais les protéger contre la vie. Mais je ne dois pas leur dire ce que je sais. Je ne dois pas abréger le temps où ils seront insouciants, croyants et confiants. La tendresse que j'éprouve pour eux ne peut être rien de plus que le plaisir égoïste d'un cœur solitaire. Enfin, plus souvent qu'autrefois, je contemple l'univers avec adoration. Car un jour, peut-être, je devrais renoncer sans espoir au spectacle merveilleux. Notre temps est mesuré. Hâtons-nous. Essayons d'achever le travail que nous avons commencé. Bonne nature, tu familiarises ceux qui vieillissent avec l'idée de la mort. Peut-être qu'à sa dernière heure, celui qui a travaillé toute sa vie avec bonne volonté goûte la douceur d'être étendu et immobile dans son lit après un long voyage fatigant.